Livre du Deutéronome, au chapitre 33, le verset 1er. C'est la première fois que dans les Écritures, cette expression se trouve. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Ici, on s'aperçoit que Moïse est qualifié d'homme de Dieu. C'est la première fois qu'on trouve cette expression et j'ai eu à cœur de partager avec vous durant plusieurs réunions autour de ce thème. Qu'est-ce que l'homme de Dieu ? Cette expression nous fait rêver, nous qui servons le Seigneur et qui voulons le servir, qui voulons avancer avec lui. Cette expression est une expression qui est chère à notre cœur, mais qui a tant et tant de fois été galvaudée, ou au contraire, une expression qui a été mise sur un piédestal et qui nous paraît, à nous, totalement inaccessible. Quand on regarde quels sont les hommes de Dieu qui ont été qualifiés comme cela, eh bien, un certain complexe naît en nous. Et pourtant, nous allons voir que nous pouvons tous être des hommes et des femmes de Dieu. Utiliser cette expression uniquement pour les ministères dons ou pour les pasteurs serait limitatif. Le ministère nous est donné. Et ce n'est en rien le fruit d'une croissance avec Dieu. Mais le ministère est un cadeau, certains diraient presque un cadeau empoisonné, qui est fait et qui est donné à certains hommes. Nous le voyons et nous le savons. Mais la nature de l'homme de Dieu est issue avant toute chose de sa relation avec Dieu. Et lorsque l'on décortique cette expression, nous voyons très bien que chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme qui est né de nouveau, et qui aspire à servir le Seigneur, peut vivre cette expression dans son quotidien. Cette expression d'homme de Dieu est divisée en trois mots. Jusqu'à présent, vous me suivez. Le premier de ces mots, c'est « homme ». Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un homme ? Un homme, dans le domaine biologique, c'est un enfant qui a grandi. Forcément, il est sorti du ventre de sa mère, il ressemblait à une petite crevette. Et puis, les années ont passé et on arrive, en passant au stade par le stade d'adolescent, à celui d'homme. Un homme, les sociologues qualifient cette expression, qualifient cet état comme quelqu'un qui est autonome émotionnellement, géographiquement et matériellement. C'est-à-dire que l'on devient un adulte au sens sociologique à partir du moment où on est indépendant de ses parents au niveau émotionnel, au niveau financier et au niveau géographique. Auparavant, nous restons... nous ne pouvons pas être considérés comme des adultes. Dans le domaine spirituel, il en va de même. Nous naissons de nouveau. Donc, nous devenons une petite crevette spirituelle. Nous naissons comme une petite crevette spirituelle. L'apôtre Paul le dira lorsqu'il écrira dans la première aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » L'enfant a un langage propre, a une manière de penser propre, a un raisonnement propre, et l'adulte en a un autre. Et tout le principe de notre vie spirituelle, c'est de passer de ce stade d'enfant à celui d'adulte. Un adulte, on pourrait pousser l'analogie très loin, un enfant ne sait pas de se nourrir tout seul. Il faut que la maman lui donne le biberon. De la même manière, lorsque l'on est un enfant spirituel, c'est compliqué de se nourrir tout seul. Un enfant ne sait pas marcher tout seul, il a besoin d'être porté. Au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, il apprend à marcher. Alors il commence à se faire quelques égratignures, etc. Et puis un jour, il devient stable et il marche d'une manière tout à fait naturelle. Lorsque l'on est enfant de Dieu, il faut apprendre à marcher. On peut pousser l'analogie extrêmement loin. Et me direz-vous, à partir de quel moment devient-on des adultes dans la foi ? Devient-on des hommes dans la foi ? À partir du moment où nous sommes stables. À partir du moment où nous sommes sur nos deux pieds. Et qu'il y a des bases qui sont bien posées, que ce soit pour notre foi, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos relations sociales, c'est-à-dire que nous sommes capables de nous comporter en tant qu'enfants de Dieu au sein de la société, avec nos amis, ou dans notre capacité, à partir du moment où nous sommes stables dans la manière dont nous menons notre combat spirituel, mais également quand nous sommes stables vis-à-vis de notre relation avec Dieu. Ça fait un sacré challenge, ça. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que nous sommes devenus des hommes. Et que l'apôtre Paul utilisera cette expression « lorsque je suis devenu homme ». Donc, même Paul a dû subir ce parcours, a dû vivre ce parcours et a dû devenir un homme. Bon, bien souvent, on utilise et puis on remercie le Seigneur parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est vrai. Mais on ne doit pas forcément se satisfaire de ce terme d'enfant. Mais on doit devenir des hommes et des femmes de Dieu. Même si nous resterons toujours les enfants de notre Père. Même si à 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous restons toujours les enfants de nos parents, il n'en reste pas moins que le but qui doit être le nôtre, c'est celui de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Le second terme, cette expression, c'est deux. Alors me direz-vous, c'est un petit mot, hein, mais qui a une portée extrêmement importante, puisqu'il fait le lien entre les deux mots principaux. L'homme est de Dieu. Il est son créateur physique, mais il est également son créateur spirituel. L'homme est issu de Dieu. L'homme vient de Dieu. Il est issu non seulement du souffle de Dieu à l'origine, mais il est également issu de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas sur terre par hasard, nous ne sommes pas ici par hasard, mais Dieu, eh bien, nous a voulu ici. Dieu désire que nous soyons ici. Nous sommes de Dieu. Et nous le sommes aussi bien physiquement que spirituellement. Cette particule, cette proposition nous parle d'appartenance. Nous appartenons à Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Cette particule nous parle également d'une certaine opposition. Parce que si nous sommes de Dieu, nous ne sommes pas de la chair. L'homme de Dieu, il appartient à Dieu. Il est issu de Dieu. Et il vit selon les principes de Dieu. Quant au mot Dieu, on pourrait rester un bon paquet d'heures dessus. Mais lorsque on parle de Dieu, il faut faire mention de ses attributs. Il faut faire mention de ce qu'il est. Il faut faire mention de son amour, de sa justice, de sa capacité à se mettre en colère, de sa jalousie même parfois. Ce sont des attributs que l'on ignore bien souvent. Des traits de caractère de la personne de Dieu que l'on ignore bien souvent, mais qui pourtant demeurent. Et finalement, il y a une opposition terrible entre le premier mot et le troisième. Comment connecter cette notion d'homme à cette notion, à la personne de Dieu? Tout simplement par le lien d'amour. Il a fait de nous ses enfants et il fera de nous eh bien, des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Et pour devenir des hommes et des femmes de Dieu, notre principal atout, c'est quoi? C'est la confiance que l'on a en lui. La confiance qu'il fera cette œuvre. La confiance, mon frère, ma sœur, qu'en toi il y a ce potentiel. Alors, lorsque l'on regarde Romain, on se dit, il ne pourra jamais devenir un homme, c'est pas possible. Il n'aura jamais de poids, il n'aura jamais, eh bien, la joie de pouvoir faire passer un rasoir sur ses joues. Pourtant, si Romain, un jour tu deviendras un homme, tu ne resteras pas au stade d'adolescent, je t'assure. À supplier ta mère de te faire des hamburgers. Je te promets. De la même manière, dans notre vie spirituelle, lorsque l'on se regarde, on se dit, comment est-ce que je vais faire? Lorsqu'on se regarde et qu'on se compare à des Moïse, qu'on se compare à des Élisée ou à des Élie, comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu? Tout simplement parce qu'en nous, il y a son esprit. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous ce soir en guise d'introduction, parce que ce ne sera que l'introduction de cette réflexion, c'est ce qui ne définit pas l'homme de Dieu. Ce qui fait en sorte que les points qui ne font pas de nous des hommes de Dieu, de manière à enlever quelques idées préconçues, je ne vous apprendrai rien, mais je remettrai seulement certaines choses en place. Ce qui ne définit pas l'homme de Dieu, c'est son nom ou son prénom. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle David ou qu'on s'appelle Samuel que automatiquement nous sommes eh bien, des hommes ou des femmes de Dieu. D'ailleurs, on s'aperçoit que 12 personnes en tout ont été qualifiées dans la parole de Dieu de ce titre-là. 8 eh bien, sont nommées, on les connaît, et 4 sont inconnues. Et cette notion, moi, elle me fait du bien, elle me fait plaisir de me dire que finalement, eh bien, des inconnus sont qualifiés d'hommes de Dieu. Des hommes et des femmes dont on ne connaît pas le nom sont qualifiés et sont nommés comme étant des hommes de Dieu. C'est quelque chose qui est beau, parce que pour être un homme de Dieu, il ne faut pas forcément avoir un nom. Pour être un homme de Dieu, il ne faut pas forcément être sur une estrade. Pour être un homme de Dieu, il ne faut pas forcément être connu et être reconnu par des foules et par des dizaines et des centaines d'églises. Le nom, lorsqu'il est utilisé, ne sert qu'à regrouper dans le temps des actions attribuées à une personne. Et dans le livre des juges, il y en a même un qui refusera de donner son nom. Quelle application pouvons-nous en sortir ? Ce qui est important dans cette notion d'homme de Dieu, ce n'est pas son nom, mais c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Nous devenons homme de Dieu non pas de par notre filiation, ou non pas de par la renommée que nous avons, mais de par ce que nous faisons et de ce que nous sommes. C'est ça qui détermine un homme de Dieu. Ce n'est pas sa notoriété, ce n'est pas sa renommée, mais c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il représente auprès de son Dieu. Deuxième application, attention à la gloire et à la tentation de se faire un nom. Les hommes, dans le livre de la Genèse, ont eu cette tentation. Faisons-nous un nom. Et quelle a été la conséquence ? La tour de Babel, vous le connaissez. Et c'est pour cela que nous avons la joie de parler anglais, allemand, russe, etc. Faisons-nous un nom. L'homme de Dieu, ce n'est pas forcément celui qui est connu. Et nous allons le voir tout à l'heure, c'est celui qui est reconnu. L'homme de Dieu élève le nom de son Dieu. Mais jamais le sien. L'homme de Dieu est connu de Dieu. Et la certitude de l'être. J'aime beaucoup lorsque Élie se déterminera comme ça, en disant « L'Éternel devant qui je me tiens ». Élie savait devant qui il se tenait. Élie savait qu'il était écouté de Dieu. D'ailleurs, ce qui va l'emmener jusqu'au Carmel. Saül oubliera que la renommée et que les apparences ne sont pas la priorité. Et Samuel lui fera ce reproche, Saül, quand tu étais petit à tes yeux. Alors l'Éternel t'a fait roi de tout Israël. Mais maintenant que tu es devenu grand à tes yeux, l'Éternel te retire la royauté. Diotrephe, dans la troisième épître de Jean, est reconnu comme voulant être le premier. Tous ces hommes qui pourtant avaient le potentiel d'être des hommes de Dieu, à certains moments, ont sombré dans la reconnaissance humaine et dans la volonté de se faire un nom, dans la volonté d'avoir un nom. Et ils ont perdu jusqu'à ce que le Seigneur leur avait donné. La première chose qui ne définit pas un homme de Dieu, c'est son nom. La seconde chose qui ne définit pas un homme de Dieu, c'est son âge. Et l'exemple que nous avons, c'est celui de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3, versets 19 et 20, il dit que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Déjà enfant, Samuel servait l'Éternel. Et on peut dire que Samuel était déjà un enfant de Dieu qui entendra la voix de Dieu. Ensuite, Samuel va vieillir et puis on va gentiment le pousser vers la porte de sortie. Mais il n'en reste pas moins que David, lorsqu'il a besoin d'un homme de Dieu, ira retrouver Samuel. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge pour être un homme de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge limite. À aucun moment, on trouve qu'un tel qu'Élie devint homme de Dieu à tel âge. Il n'est pas marqué qu'Élisée devint homme de Dieu à tel âge. Il n'est pas dit que Timothée devint homme de Dieu à tel âge. On peut trouver dans la Bible que tel roi prit la royauté à tel âge, mais en aucun cas qu'il devint homme de Dieu à tel âge. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de moment où on peut dire « ça y est, je suis devenu un homme de Dieu ». Il n'y a pas d'âge pour y aspirer. Jeune homme, jeune fille, il ne faut pas 15 ans de conversion. Il ne faut pas 20 ans de conversion pour commencer à aspirer à vouloir être un homme ou une femme de Dieu. Il ne faut pas avoir telle ou telle expérience, il ne faut pas avoir vu telle ou telle chose pour aspirer à vouloir être un homme ou une femme de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il définit. Ce n'est pas son âge et ce n'est pas son expérience. Troisième point, nous ne pouvons pas nous nommer homme de Dieu. On le voit au travers de Samuel et du récit que l'on a fait, c'est tout Israël qui reconnaissait en Samuel un prophète, qui reconnaissait en Samuel eh bien, un homme de Dieu. De la même manière, c'est la veuve qui va qualifier Élisée d'homme de Dieu. Dans la parole de Dieu, ce n'est jamais Dieu lui-même qui dit à quelqu'un, à un de ses serviteurs, homme de Dieu. Jamais. Vous ne le trouverez jamais marqué. En revanche, ce sont toujours les hommes, toujours, qui reconnaissent dans un de leurs pères cette caractéristique et qui lui donne ce titre. Ce n'est pas nous qui nous décrétons homme de Dieu, mais c'est ceux qui nous regardent vivre. Et on peut pousser le raisonnement encore un petit peu plus loin. On peut se donner le titre de chrétien. On peut. Mais ce serait beaucoup plus judicieux si c'était ceux qui nous regardaient vivre qui nous le donnaient. Si c'était nos collègues de travail qui nous le donnaient. Si c'était nos voisins qui nous le donnaient. En disant, mais il brille celui-là. Comment ça se fait ? Oh, il doit être chrétien. Ça serait beaucoup plus judicieux, ça serait beaucoup plus juste. Plutôt que d'annoncer la couleur en disant, je le suis, que finalement, on nous le dise. En disant, toi, tu as une bonne tête de chrétien, tu as une bonne attitude de chrétien. D'ailleurs, on se souvient un petit peu de l'origine de ce mot. Hein. C'était un sobriquet qui a été donné eh bien, au premier disciple à Antioche. On peut se donner des titres, des noms. Mais en réalité, c'est ceux qui nous regardent vivre qui nous le donnent et qui nous l'attribuent. Et uniquement. Uniquement. Quatrième point, l'homme de Dieu n'est pas le résultat d'une culture humaine. Moïse est devenu homme de Dieu, non pas lorsqu'il était à la cour de Pharaon et enseigné dans toute la science des Égyptiens, mais Moïse est devenu homme de Dieu une fois qu'il était en train de, après avoir passé 40 années à faire paître le troupeau de son beau-père, et après avoir accepté tant bien que mal la mission que lui confiait Dieu, et il a acquis ce titre, non pas de par ses qualités intellectuelles, mais de par ses qualités de cœur. Moïse, l'homme le plus patient que la terre n'ait jamais porté. Moïse, entièrement soumis à Dieu. Moïse, capable d'avaler des couleuvres pas possibles. Moïse, capable eh bien, d'intercéder alors que la colère de Dieu allait se déchaîner sur le peuple et allait faire de lui eh bien, quelqu'un d'important, puisque Dieu lui avait dit, écoute, Moïse, j'en peux plus, la postérité, j'en peux plus de ce peuple. Je vais éradiquer tout le monde et puis c'est de ta postérité que je ferai sortir mon peuple. Moïse dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Moïse a développé, a acquis ce titre. Je n'aime pas cette expression, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Non de par ses qualités intellectuelles, mais de par ses qualités de cœur. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger la connaissance, parce que nous savons que la parole de Dieu est finalement le terreau dans lequel eh bien, notre vie va grandir. Et la connaître, c'est finalement permettre qu'elle nous sanctifie, c'est savoir qui est Dieu, c'est savoir à qui nous devons ressembler, c'est savoir quel est notre objectif. Bien sûr que mon propos n'est pas du tout là, et bien au contraire, puisque c'est en lisant sa parole, en méditant sa parole, parce que la lire ne suffit pas, il est nécessaire de la méditer, que finalement le Saint-Esprit mettra en nous eh bien, les caractéristiques de notre maître. Cinquième point, ce n'est pas aux vêtements que l'on reconnaît l'homme de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 17, au verset 10, le prophète y écrira « Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments. Tu as planté des cèpes étrangers. Un jour, un pasteur utilisait une expression que j'ai beaucoup aimée, s'adressait à des jeunes serviteurs et il disait « Jeune homme, c'est pas parce que vous mangerez beaucoup de sauterelles et que vous serez vêtu de vêtements de peau de chameau que vous ressemblerez à Jean-Baptiste. Hein. » Il le disait sur le ton de l'humour, mais quelque part, personnellement, ça m'a fait réfléchir. Ce n'est pas parce que l'on se drape dans des apparats religieux que nous sommes des hommes de Dieu. Les pharisiens avaient des apparats religieux tout à fait remarquables. Ils étaient capables de faire de belles prières, ils étaient capables de donner des sommes tout à fait importantes avec un grand coup de trompette. Les pharisiens connaissaient les Écritures, connaissaient la loi sur le bout des doigts. D'ailleurs, ils la connaissaient tellement bien que ce n'était plus amusant. Ils avaient développé toutes sortes de dogmes autour. Ils avaient les apparences. Mais ce n'est pas ça qui fait la caractéristique d'un homme de Dieu. Quelqu'un a dit un jour que ce n'est pas aux feuilles qu'on reconnaît un arbre, mais c'est aux fruits. Alors, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans notre cœur, enlevons les feuilles. Et vous savez, ce qui enlève les feuilles, c'est l'épreuve. Et dans l'épreuve, il ne reste que le tronc, les branches, et je crois beaucoup de fruits pour celui qui résiste. Lorsque l'on passe au creuset, toutes les belles litanies, tous les beaux principes, bien souvent, ils passent avec la chaleur, et ce qui reste, c'est les fruits. C'est les fruits. Ce qui déterminera la qualité de nos fruits, c'est notre attachement au cep. Un sarment, même détaché, s'il a des feuilles, il pourra les conserver encore quelque temps. Au bout d'un moment, tout fanera. Mais il pourra encore faire comme si. Ce qui détermine entièrement notre caractère d'homme de Dieu, notre caractère de femme de Dieu, c'est notre attachement au cep. C'est notre relation avec le cep. C'est la sève qui coule dans nos cœurs. C'est la sève qui coule dans nos vies. Et uniquement cela. Uniquement cela. Et à cette condition, non seulement nous aurons des feuilles, mais surtout nous aurons du fruit. C'est uniquement cela qui détermine, finalement, la caractéristique d'un homme de Dieu. Ce n'est pas son vêtement et ce n'est pas non plus parce qu'il a grandi à proximité, et c'est le sixième point, qu'il a grandi à proximité d'un homme de Dieu. Nous avons un exemple extraordinaire, Géasi, le serviteur d'Élisée. Il a vécu des choses tout à fait remarquables. Il a vu des résurrections, il a vu des miracles. Pourtant, on connaît quelle va être sa fin, puisque après la guérison du général syrien Naaman, Élisée va refuser les cadeaux que Naaman va vouloir lui faire. Et Géasi va courir derrière son char. De manière, lui a bénéficié des largesses du général syrien. Et la lèpre de Naaman va s'attacher à lui. Ce n'est pas parce qu'on grandit à côté d'un homme de Dieu qu'on est automatiquement un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est enseigné par un homme de Dieu que l'on est automatiquement un homme de Dieu. Ne prenons pas des raccourcis. Nous ne naissons pas homme de Dieu, mais ce titre est le fruit d'une croissance. Nous n'héritons pas du titre d'homme de Dieu. Les fils de Samuel ont été institués, mais ils sont passés bien à côté de ce que leur père aurait voulu pour eux. Ce n'est pas parce que nous prêchons que nous sommes des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que nous prions que nous sommes des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que nous connaissons notre Bible sur le bout des doigts que nous sommes des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que nous témoignons que nous sommes des hommes de Dieu. Mais c'est parce que nous portons des fruits que nous sommes des hommes de Dieu. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui ne détermine pas un homme de Dieu? Ou plutôt, qu'est-ce qui le détermine? Puisque on a creusé plusieurs pistes. Première chose, sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. Mon frère, ma sœur, as-tu une relation personnelle avec Dieu ? Si tu es ici, je pense que oui. Donc, tu passeras le voisin, tu passeras le message à d'autres éventuellement. As-tu une relation personnelle avec Dieu ? C'est-à-dire, as-tu l'assurance dans ton cœur que tu es connu de Dieu ? Et connais-tu ton Dieu ? Arrives-tu à avoir cette intimité ? Arrives-tu à aller puiser les forces en lui ? Deuxièmement, ne te complexe pas. Parce que ce titre glorieux, extraordinaire, ce qualificatif, il a été donné à des hommes parfois extrêmement improbables. Paul le donnera à Timothée alors que Timothée était embourbé dans l'église d'Éphèse, aux prises avec toutes sortes de conflits. Ce titre, il a été donné, je voulais citer, à Moïse, alors que, eh bien, Moïse, c'était tout de même un assassin. Ce titre, il a été donné à des gens dont on ne connaît même pas le nom, mais qui, dans leur entourage, parce qu'à certains moments, ils se sont montrés fidèles, parce qu'à certains moments, ils ont été présents, parce qu'à certains moments, ils ont été, eh bien, attentifs à la voix de l'Esprit de Dieu, alors ceux qui étaient à côté d'eux ont dit « c'est un homme de Dieu », et on pourrait dire « c'est une femme de Dieu ». Parce qu'elle a répondu présente. L'homme de Dieu, troisième point. C'est celui qui est reconnu. C'est pour cela que le départ des ministères est toujours validé par l'Église. Acte 13, on voit Paul et Barnabas, ils partent avec l'approbation de l'Église d'Antioche. Parce que l'Église a reconnu que l'appel de Paul et Barnabas était authentique, était réel, et qu'il correspondait avec, eh bien, l'appel du Saint-Esprit. On ne peut pas se proclamer. Dans certains pays, même en France d'ailleurs, certains s'intronisent hommes de Dieu. Ça ne peut pas être comme ça. Ça se passe dans l'autre sens. C'est la base, j'allais dire. Sans que cela ne soit du tout péjoratif, qui intronise et qui donne, eh bien, ce titre. Qui peut se perdre ? Quatrièmement, cette notion d'homme de Dieu est le fruit d'une croissance. Ne l'oublions jamais. C'est le fruit d'une évolution qui est marquée ensuite par certains actes. Mais ce n'est pas une génération spontanée. On ne peut pas se réveiller un matin en disant « ça y est, j'ai atteint le cap, je suis un homme, je suis une femme de Dieu. » Du tout. Du tout. Que le Seigneur nous aide. Et dans vos prières, demandez, parce que vous y avez le droit, mes frères, mes sœurs, fais de moi une femme de Dieu. Fais de moi un homme de Dieu. Fais de moi quelqu'un, s'il te plaît, qui marquera le cœur de ma génération. Qui marquera le cœur de ceux qui m'ont connu, qui marquera le cœur, eh bien, de certaines personnes que je côtoierai. À mon faible niveau, peut-être. Ça ne sera jamais su, et merci Seigneur, ça m'évite de tomber dans l'orgueil. Peut-être que moi-même, je ne le saurai jamais. Mais s'il te plaît, peu importe que je puisse accomplir tes œuvres, que je puisse accomplir les œuvres bonnes que tu as préparées pour moi. La prochaine fois, nous rentrerons un peu plus dans le détail de la vie de ces 12 hommes, au travers de thèmes, de manière très thématique, de manière à voir quelles sont les caractéristiques qui les ont animés et que nous puissions les mettre en prière. C'est une réflexion de fond que nous allons entreprendre pour nos propres vies, afin qu'au sortir de cette cinquantaine de réunions, eh bien, nous puissions, eh bien, dire, eh bien, Seigneur, maintenant j'ai des axes, je veux devenir un homme, je veux devenir une femme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.